France Inter.
Bonjour à tous. À la une aujourd'hui, le goût de la liberté retrouvé pour Serge Atlaoui, condamné à mort en Indonésie, transféré en France il y a 5 mois. Il est sorti de prison ce matin après 20 ans de détention, heureux et ému. Nous serons devant la prison de Meaux dès le début de ce journal. Dans l'actualité aussi, l'incendie à Martigues est contenu, mais pas encore maîtrisé. Certains habitants évacués ont pu rentrer chez eux. Une gradation de plus dans l'échelle des sanctions contre la Russie. L'Union européenne accentue la pression pour un cessez-le-feu en Ukraine. Il faut faciliter le parcours de soins des personnes transgenres. C'est l'avis très attendu de la Haute Autorité de Santé. On parlera aussi de la pétition contre la loi Duplomb, pas loin d'atteindre les 200 000 signatures. Et puis ça va grimper sec pour les coureurs du Tour de France. 11 km en pente très raide.
Inter.
L'espoir paye toujours, ce sont les premiers mots de Serge Atlaoui. À 61 ans, il a passé 20 ans en prison, condamné à mort pour trafic de drogue en Indonésie. Accusation dont il s'est toujours dit innocent. Serge Atlaoui a retrouvé la liberté ce matin. Depuis la prison de Meaux, en Seine-et-Marne, il avait été transféré en France en février. La prison de Meaux, où vous vous trouvez, Marion Aquilina, bonjour.
Bonjour.
Serge Atlaoui est sorti un peu avant 10h avec un grand sourire, hein, Marion.
Oui, l'ancien condamné à mort originaire de Metz a pris le temps de savourer l'air libre et une cigarette.
Ah, oh, c'est beau le ciel, surtout quand on le voit de cette manière-là.
Serge Atlaoui s'est ensuite approché des journalistes sur le parking devant la prison de Meaux.
Il a été temps, plus 20 ans. Jamais j'aurais cru que ça serait arrivé, quoi. En insistant et puis avec le soutien, ça s'est fait, quoi. Donc. Comme quoi que l'espoir paye toujours.
Un homme de 61 ans, prêt pour sa nouvelle vie, l'air victorieux, soulagé dans son t-shirt blanc, pantalon gris et paire de baskets. Et surtout, avec son sac à la main, il avait hâte d'embrasser ses enfants.
Juste maintenant, faire la route et retrouver ma famille, c'est tout. Rien d'autre.
Et l'émotion était tout aussi forte pour son avocat, maître Richard Cédillo. Et Serge Atlaoui se sont pris longuement dans les bras en repensant au cauchemar de l'Indonésie.
Je suis très 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 ému de voir Serge, que je n'avais jamais vu en liberté, sous le ciel bleu, le soleil. Imaginez qu'il va reprendre la vie qu'il mérite. C'est très 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 émouvant, évidemment. Et puis imaginez qu'il y a quelques années, il était au bord de la mort. Tout ça est derrière nous.
Sans cette libération conditionnelle, Serge Atlaoui devait être libéré en novembre 2035.
Merci Marion Aquilina, en direct de Meaux, avec les moyens techniques de Benjamin Thuot. Fréjus, dans le Var, la forêt de Brocéliande près de Rennes, et aussi Martigues, à l'ouest de Marseille, c'est la carte des incendies du jour. L'été s'annonce déjà dévastateur, alertent les pompiers. Si dans le Var et en Bretagne, les feux sont fixés depuis hier soir, c'est-à-dire qu'ils ne progressent plus, dans les Bouches-du-Rhône, en revanche, l'incendie est contenu, mais pas encore maîtrisé. À Saint-Julien-les-Martigues, les habitants évacués hier soir ont pu regagner leur maison ce matin. Reportage de notre correspondante Mathilde Vinceneux.
Le feu s'est arrêté à quelques mètres à peine de la maison d'Anne-Marie, mais il a ravagé la pinette juste derrière. Elle a filmé les flammes avec son portable avant de fuir.
C'est apocalyptique, quoi. C'est des flammes de plusieurs dizaines de mètres de haut. Et le problème, c'est que comme ce sont des pins, ça s'enflamme, c'est épouvantable. C'est une torche qui s'enflamme à chaque fois un pin.
Et c'était rouge, là, incroyable.
Alain, il coupe le bois brûlé le long de sa propriété. Lui aussi est marqué par la violence du feu.
C'était affreux, là. Il y avait une chaleur pas possible et puis c'était irrespirable. J'ai eu peur parce que je pensais que la maison, vu les flammes de 20 à 30 mètres de haut, j'ai dit la maison, elle va y passer.
Les pompiers ont du mérite, salue cet habitant. Ils ont lutté jusqu'au bout, insiste Léna. Elle habite le même quartier.
Les pompiers ont tout fait pour sauver notre maison et la maison, elle a été sauvée. Et là, il y a encore les pompiers parce qu'il y a plein de petits départs de feu, il y a plein de fumée. Ils sont en train de faire le maximum pour tout inonder. Dans la colline, et tout est noir, tout est brûlé. Tout est brûlé. Ça sent la fumée, il y a de la cendre de partout, il y a un gros nettoyage à faire, quoi.
Alors que les habitants commencent le déblayage, les camions des pompiers sont toujours là pour intervenir à la moindre reprise de feu.
Mathilde Vinceneux, et en effet 600 pompiers sont toujours engagés sur cet incendie à Martigues. Et ça explique la multiplication des incendies. Dans le sud-est de la France, la végétation n'a jamais été si sèche pour un début juillet. Après un mois de juin exceptionnellement chaud, le sud n'est plus le seul concerné ravagée par la sécheresse. Dans le Cher, en plein centre de la France, la préfecture ordonne des restrictions d'eau, faute de quoi l'eau potable pourrait manquer d'ici quelques semaines. C'est l'Office français de la biodiversité qui contrôle le bon usage de l'eau. Pour Ici Berry, Michel Benoît a rencontré ses agents.
À Bourges, il est évidemment interdit d'arroser les massifs, sauf à utiliser de l'eau de pluie récupérée.
On regarde s'il n'y a pas un arrosage, un goutte à goutte. Ici, c'est bon.
L'OFB dresse généralement une trentaine de PV dans le Cher quand les étés sont secs. L'amende peut atteindre 1500 euros. Ludovic Bernachaud, chef de service adjoint.
On sera à plusieurs jours par semaine de contrôle sur toutes les plages horaires, sur tous les usagers, que ce soit les particuliers, les entreprises, le monde agricole, les collectivités.
En 2022, plusieurs communes dans le Cher avaient frôlé la rupture d'approvisionnement en eau potable. Yannick Pastoureau, directeur départemental adjoint des territoires, espère ne pas en arriver là.
Ça fait déjà plus d'une vingtaine d'années que notre département est situé en zone de répartition des eaux, c'est-à-dire en situation de déficit d'eau par rapport aux besoins. La cause principale, ce n'est pas les canicules, c'est la manière dont on consomme l'eau.
D'où cet appel à une sobriété maximale alors qu'il reste au moins 2 mois à tenir. La ville de Bourges a réduit des 2/3 sa consommation en eau potable en 15 ans, rappelle Clément Guyot, chef du service Espace Vert.
Savoir qu'on était dans une consommation aux alentours de 160 000 mètres cubes il y a à peu près 15 ans. Donc là maintenant, on est un peu en dessous des 40 000 mètres cubes. On est passé en goutte à goutte. On a transformé surtout beaucoup d'espaces verts où on a arrêté d'arroser. On récupère aussi de l'eau de pluie.
Les jardins de l'archevêché et des préfichots bénéficient de dérogations d'arrosage pour raisons patrimoniales.
Michel Benoît, ici Berry, anciennement France Bleu. Et du côté des orages, 3 départements passent ce soir en vigilance orange, pluie, inondation. Le Calvados, l'Ille-et-Vilaine et la Manche. Météo complète à la fin de ce journal.
France Inter, le journal de 13h, Corinne Audouin.
L'Europe monte d'un cran dans la gradation des sanctions contre la Russie. Des mesures sans précédent saluent la France. C'est le 18e paquet de sanctions adopté par l'Europe. Et jusqu'ici, elles ont échoué à arrêter la guerre en Ukraine. Fabien Cazot, vous êtes notre correspondant à Bruxelles. Bonjour.
Bonjour Corinne, bonjour à tous.
Et ces sanctions concernent 3 secteurs clés, l'énergie, la finance et le commerce.
Oui, avec un accent mis sur les exportations de pétrole russe, l'Union européenne instaure un prix plafond. 45 euros maximum le baril, sous peine de sanctions pour les pétroliers qui continuent à en vendre ailleurs dans le monde. L'Europe interdit par ailleurs l'importation sur son sol de produits raffinés à partir de pétrole russe. Enfin, 105 nouveaux tankers se voient interdire l'accès aux ports européens. Objectif, insiste le ministre des Affaires européennes, Benjamin Haddad, tarir le financement de l'effort de guerre russe en Ukraine.
La seule façon de remettre les parties autour de la table des négociations et de créer les conditions d'une paix juste et durable, c'est d'accroître fondamentalement la pression sur la Russie sur le plan militaire en continuant les livraisons d'armes à l'Ukraine qui se défend courageusement et sur le plan économique avec les sanctions. Et ce 18e paquet de sanctions est une avancée majeure. Il y a eu un effort diplomatique considérable qui a été fait pour son adoption et nous continuerons de soutenir les Ukrainiens face à cette guerre d'agression parce que c'est la sécurité de tous les Européens qui est en jeu.
Autre pilier de ce 18e paquet de sanctions, le secteur financier, avec 22 nouvelles banques russes retirées du système international de transactions SWIFT, ou encore un volet commercial avec 26 organismes de pays tiers placés sous sanctions, car accusés de contourner les précédents paquets, principalement en Chine et en Turquie.
Merci Fabien Cazot. Et la réaction du Kremlin, la Russie fera en sorte de minimiser les conséquences des nouvelles sanctions européennes. Côté ukrainien, le président Volodymyr Zelensky annonce en outre que la France va former de nouveaux pilotes pour les avions de chasse Mirage. Il s'est entretenu avec Emmanuel Macron. Après les violences de ces derniers jours en Syrie qui ont fait près de 600 morts, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme demande une enquête rapide. Les forces gouvernementales syriennes se sont retirés pour éviter une guerre ouverte avec les Druzes soutenus par Israël. Mais sur place, autour de la ville de Soueïda, les affrontements continuent entre combattants druzes et membres de tribus bédouines. C'est un fait rare. Après la frappe israélienne sur la seule église catholique de Gaza, Benjamin Netanyahou fait amende honorable. Israël regrette profondément qu'un tir perdu ait atteint l'église de la Sainte Famille à Gaza, dit le Premier ministre. Chaque ville innocente perdue est une tragédie. La frappe a fait 3 morts et 10 blessés, dont le prêtre de la paroisse. Et puis une entreprise européenne dans la tourmente, MBDA, est accusée d'avoir fourni des composants pour des missiles qui ont frappé des écoles et des mosquées à Gaza. C'est une révélation du média Disclose et du Guardian. Explication d'Étienne Monin.
C'est un petit composant noir réduit en pièces qui surnage dans les débris d'une école de Gaza, visée par une frappe israélienne en mai dernier dans laquelle 36 Palestiniens ont trouvé la mort, parmi lesquels 18 enfants. Cette pièce a été fabriquée par MBDA. Elle équipe les missiles américains GBU-39, explique Aymeric Allouin d'Amnesty International.
Ce sont des ailes qui sont rajoutées sur le dos de la bombe, concourent à la précision du tir.
D'après l'enquête de Disclose et du Guardian, ce type de bombe a tué 500 personnes à Gaza, dont au moins 24 frappes qui ont visé des bâtiments civils ou des camps de déplacés. La responsabilité de MBDA pourrait être engagée, estime Canel Lavitte. Elle travaille pour le Centre européen pour les droits constitutionnels et humains.
Moi, je pense qu'il y a 2 risques juridiques pour MBDA. Le premier, c'est le recel, le fait de bénéficier en connaissance de cause du produit d'un crime. Deuxième risque pour MBDA, ce serait celui de la complicité, c'est-à-dire de contribuer en connaissance de cause à la commission de crimes.
Le siège de MBDA est en région parisienne, mais c'est une filiale basée aux États-Unis qui produit la pièce pour les bombes américaines. Le groupe européen estime qu'il est en conformité avec les lois nationales et internationales.
Étienne Monin de la rédaction internationale de Radio France. Comment aborder sereinement la question sensible de la transition de genre? Eh bien, c'est compliqué, même pour la Haute Autorité de Santé. Elle a reporté ce matin ses recommandations à propos des mineurs, faute de consensus. L'autorité indépendante avait dénoncé des pressions et des, je cite, « polémiques déplacées » tout au long de ses travaux. Bonjour Alice Cachaner.
Bonjour.
Vous êtes au siège de la HAS à Saint-Denis. Alors la Haute Autorité a rendu en revanche ses conclusions pour les adultes qui souhaitent entamer une transition.
Oui, l'objectif est d'améliorer la prise en charge des personnes qui se questionnent sur leur identité de genre. Faire aussi tomber des idées reçues, insiste Lionel Collet, le président de la HAS.
Nous disons d'abord très clairement que non, ce n'est pas une maladie. Nous rappelons que la position de l'OMS 2018, la transidentité sort de la psychiatrie et rentre dans le domaine de la santé sexuelle. Donc pour nous, ça, c'est une question vraiment absolument majeure.
La HAS recommande donc la fin des consultations psychiatriques systématiques, y compris avant une opération chirurgicale. Autre point important, un médecin généraliste formé à la transidentité pourra prescrire lui-même des traitements hormonaux, notamment de la testostérone. Aujourd'hui, il n'est autorisé qu'à des renouvellements d'ordonnances. Ces recommandations étaient très attendues des personnes transgenres, car elles sont très souvent, trop souvent, confrontées à des obstacles, voire de l'hostilité, lors de leur parcours de soins, raconte Lou Girard, membre de l'organisation de santé trans.
Ça fait très longtemps que les personnes trans font face à une très très grande hétérogénéité dans leur parcours de transition, subissent du coup de mauvais traitements, des traitements discriminatoires, parce que les médecins en fait manquent de formation, ne savent pas quoi faire. Énormément de médecins prescripteurs refusent les personnes trans, et donc du coup en fait il fallait que la santé publique se saisisse de ces questions et publie sur ce sujet, donc c'est chose faite aujourd'hui.
Plusieurs associations regrettent toutefois que la question des mineurs transgenres ait été repoussée. Des travaux spécifiques reprendront début 2026 dans un climat que la Haute Autorité espère plus apaisé.
Merci Alice Cachaner avec les moyens techniques de Virginie Lorda. On vous en parlait hier matin, la filière de collecte et de recyclage des vêtements est submergée. La contribution des fabricants et distributeurs est trop faible, disent les entreprises du secteur. Le ministère de la Transition écologique annonce une aide de 49 millions d'euros. Tout est parti de l'indignation d'une étudiante contre la loi Duplomb. Le texte adopté au début du mois prévoit notamment la réintroduction d'un pesticide néonicotinoïde. En 8 jours, la pétition déposée sur le site de l'Assemblée demande l'abrogation de la loi est devenue virale. Bonjour Lise Roseveille.
Bonjour.
Et pour l'instant, on en est à plus de 180 000 signatures.
Oui, ça s'accélère.
s'accélère ces dernières heures. La pétition est partagée en masse sur les réseaux sociaux par des influenceurs, des élus politiques. Celle qui en est à l'origine, Éléonore, 23 ans, étudiante en santé environnementale, semble elle-même surprise. Elle l'a lancée comme un cri d'alerte pour demander l'abrogation de la loi du plomb. La particularité de ces pétitions déposées sur le site de l'Assemblée nationale, c'est qu'elles sont directement confiées à une commission. Dans ce cas précis, la commission des affaires économiques. Aurélie Trouvé, députée insoumise, en est la présidente. Elle n'avait jamais vu autant de signataires.
En général, on en a quelques centaines. Ça montre effectivement que derrière, je dirais, le battage de certains lobbies agricoles, en réalité, il y a une réaction citoyenne très forte.
Le bureau de la commission doit désormais choisir un député rapporteur chargé de cette pétition. Le bureau votera ensuite pour décider d'organiser ou non un débat au sein de la commission en septembre. Mais surtout, si les 500 000 signatures sont dépassées, ce qui n'est pas impossible vu comment le compteur avance, un débat dans l'hémicycle peut avoir lieu, à condition que la conférence des présidents de l'Assemblée l'accepte. Ça n'aurait pas la portée d'un texte de loi, mais ce serait inédit et symbolique. Une nouvelle discussion des députés sur la loi du plomb à la demande des citoyens.
Merci Lise Roosevelt du service politique de France Inter. Et elle a voté la loi du plomb. La députée MoDem Delphine Lingemann porte plainte après la dégradation de sa permanence à Aubière, près de Clermont-Ferrand, recouverte d'affiches avec le nom et le portrait de tous les députés qui ont voté le texte. L'État s'apprête-t-il à vendre les bijoux de famille? Le gouvernement réfléchit en tout cas à céder ses participations dans le capital de plusieurs entreprises. Mais de la parole aux actes, ce n'est pas si simple. Beaucoup de ces sociétés appartiennent à des secteurs stratégiques. En tout, 80 sociétés sont concernées, Maxime Deps.
Dans ces 80 sociétés, voyons celles qui sont cotées. Airbus, par exemple, l'État est actionnaire à plus de 10% de son capital. Le titre est valorisé à 185 euros l'action et celle-ci a augmenté de 20% depuis le début de l'année. Sur le papier, l'idée d'en céder une part pourrait se regarder, mais l'État veut-il, peut-il se permettre de mettre en péril l'équilibre actionnarial qui existe aujourd'hui avec l'Allemagne? La réponse est presque dans la question. On voit mal aussi comment l'État actionnaire à 25% de Thalès pourrait céder des parts dans un moment où la défense est au centre de toutes les attentions, ou encore comment il pourrait lâcher du lest chez Renault, dont l'action vient de subir un mini-crack cette semaine, moins 18%. Reste des valeurs comme Orange, dont l'État détient encore entre un cinquième et un quart du capital, ou les quelques 70 autres sociétés où l'État est présent, notamment via la BPI. À Bercy, on ne fait à ce stade aucun commentaire. Le temps des annonces n'est pas encore venu.
Maxime Deps du service économie. Va-t-il encore se hisser au sommet après sa victoire d'étape hier dans les Pyrénées? Tadej Pogacar s'élancera en dernier, leader du classement général du Tour de France, pour un contre-la-montre qui s'annonce extrême, Nicolas Perronnet.
D'ordinaire, ce sont de petits avions qui décollent de l'altiport de Peyragudes. Mais le décor sera loin d'être la seule curiosité du jour.
ASO, cette année, essaye de casser un petit peu les codes.
Sébastien Joly est le directeur sportif de l'équipe Décathlon AG2R La Mondiale.
Un chrono comme celui-ci, on avait déjà eu fait, hein, par exemple à l'Alpe d'Huez en 2004. C'était assez mythique.
Un contre-la-montre atypique. Par son profil, moins de 11 km, par sa difficulté surtout, explique le traceur du Tour, Thierry Gouvenou, quasiment une montée sèche.
Ça fait au moins 20 ans qu'on n'a pas eu ce genre d'exercice. Ça va être vraiment un cyclisme total. Sur cette rampe incroyable, hein, on a 16% de pente pour finir. On peut perdre beaucoup de temps si on est dans une journée un peu moyenne.
Un effort court, 25 à 30 minutes, mais extrêmement intense. Un rendez-vous pour pur grimpeur. Et à défaut d'avion, c'est une fusée jaune qui est attendue. Le champion de France du chrono, Bruno Armirail, ne se fait guère d'illusions face à l'immense favori, Tadej Pogacar. Encore lui.
Ouais, on verra, il ne faut pas trop se traîner non plus parce qu'il y a des délais à respecter et à la vitesse que Tadej monte, voilà quoi. Les délais vont être très serrés, je pense. Il y en a, ils doivent avoir un petit peu peur.
Difficile d'imaginer autre chose, c'est vrai pour le Slovène, que la deuxième couche de son chef-d'œuvre débutée hier à Otakam.
Et c'était Nicolas Perronnet. Il fera un petit 22 degrés agréable à Peyragudes. Un œil sur le temps.
La météo avec l'alarme Vérissure.
Détectez et mettez en fuite les intrus dès le jardin grâce au nouveau détecteur extérieur vidéo. Rendez-vous vite sur verissure.fr.
Et Sébastien Léas, encore chaud et ensoleillé cet après-midi.
Oui, le soleil va me régner sans partage des côtes aquitaines à la Méditerranée ainsi qu'en Lorraine et en Alsace. Entre les Hauts-de-France, le bassin parisien, les Alpes et l'Auvergne, seuls quelques nuages vont fleurir. Le ciel sera un peu plus voilé entre la Bretagne, le Poitou-Charentes et la Bourgogne. Et quelques ondées pourront se faire remarquer. Et puis les températures sont très largement au-dessus des normales de saison avec 22 à 27 degrés près de la Manche et au pied des Pyrénées, 27 à 33 degrés sur le reste du pays, jusqu'à 37 degrés du côté d'Avignon. En revanche, le temps va tourner à l'orage. Ce week-end s'annonce d'ailleurs assez perturbé. Déjà cet après-midi, des averses orageuses vont se développer entre la Loire-Atlantique et la Normandie. Cet axe pluvieux va persister et devenir plus actif jusqu'en fin de nuit, en débordant vers la Vendée ou encore vers le golfe du Morbihan. D'importants cumuls de pluie sont à craindre. C'est pourquoi l'Ille-et-Vilaine, le Calvados et la Manche ont été placés en vigilance orange à partir de ce soir. Et puis une autre dégradation orageuse est attendue ce soir et cette nuit sur le bassin aquitain.
Merci Sébastien Léas.